Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Pour ce 19e épisode, nous recevons Florine Augustin. Florine est une femme ambitieuse et j'ose le dire, alors que souvent c'est un compliment pour un homme, mais perçu comme un défaut chez une femme. Et pourtant, je suis admirative justement de ces femmes qui poursuivent leurs rêves, ne veulent rien lâcher de ce qui les porte, ni la carrière professionnelle, ni leur épanouissement personnel, ni l'éducation de leurs enfants. Cela demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage, beaucoup d'organisation et je crois beaucoup d'optimisme aussi. Florine est une femme engagée, chef d'entreprise à seulement 24 ans. Elle fait partie, comme beaucoup de nos invités juillet, de ces rencontres qui n'arrivent pas au hasard sur notre chemin et j'ai hâte de vous faire découvrir pourquoi. Alors venez à la rencontre de Florine le temps d'un instant juillet. Florine, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Donc je sais que tu es assez stressée et je le précise parce que tu as l'image d'une femme si sûre d'elle que rien n'arrête, que je trouve important de dire que ce n'est pas toujours simple de se livrer et de parler des sujets qui comptent pour soi. Alors on ne se connaît pas beaucoup, mais pour l'anecdote, nous avons discuté récemment lors d'un événement auquel nous avons assisté ensemble. Et nous étions toutes les deux en représentation, voilà, on sait faire, mais fatiguées, parce qu'on a une vie à mille à l'heure, le travail, le sport, les enfants, et ça nous fait beaucoup de bien de pouvoir aussi se le dire, on adore notre vie, on est à fond tout le temps, mais ouais, c'est pas toujours simple de rester soi et d'aligner la vie pro et la vie perso. Et j'ai eu envie que nous puissions continuer cette discussion sur l'instant juillet. Alors raconte-nous, Florine, à quoi ressemble une journée dans tes escarpins.
Bon, déjà, merci beaucoup, Charlotte, en tous les cas. C'est vrai que cette discussion, fin septembre, moi aussi, m'a beaucoup marquée parce que c'était une fin de soirée. On a eu presque l'audace d'échanger ensemble sur un moment de vérité. Un moment qui n'est pas toujours simple, mais qui est assez énergisant quand on se rend compte qu'on n'est pas forcément seul à vivre ces moments de difficulté, de doute, mais aussi ces moments d'euphorie profonde, comme tu le disais, d'optimisme. Parce que finalement, il n'y a rien de plus chouette que d'avoir, à mon sens, une vie multiple et de pouvoir se réaliser dans différentes sphères de la vie. À quoi ressemble une journée comme la mienne ? Ça dépend si c'est les vacances ou si c'est pas les vacances des enfants. si c'est les vacances des enfants, comme ce matin, j'ai eu la chance de me lever une heure plus tôt que ce dont j'avais besoin. J'ai lu pendant une heure parce que j'avais besoin de ce moment avec moi-même. Je suis allée au bureau. J'ai travaillé avec ma responsable RH toute la matinée. J'ai eu un déjeuner d'affaires cet après-midi, donc je le passe avec vous. En règle générale, j'ai toujours une ou deux réunions dans la journée liées à d'autres engagements que ceux purement professionnels. Les engagements que j'ai en dehors de mon activité professionnelle, c'est uniquement des engagements plaisir. Aujourd'hui, avec l'âge, j'ai plus de véritables problèmes de légitimité. En tous les cas, je n'ai plus l'impression d'en avoir. Donc je choisis les endroits où je souhaite m'engager et j'ai plus de difficultés à me désengager si ce n'est pas vraiment un moment de plaisir. Parce que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui fait que le soir j'ai de l'énergie, même si la journée a été plutôt harassante.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es capable de dire aussi quels sont les engagements qui t'apportent aussi à toi et que, dans lesquels tu as envie de te réaliser, envie de passer du temps.
Oui, et en fait, je me suis toujours aperçue que les engagements que j'avais finissaient par avoir du sens à un moment donné. J'ai été élevée dans l'engagement. J'ai un papa qui est communiste, cégétiste, donc pour une chef d'entreprise, c'est un peu particulier. Mais quand je raconte cette anecdote, je dis toujours que j'ai eu la chance de naître dans un milieu engagé et que c'est sans doute une des plus belles valeurs que mes parents m'ont transmises. Avec le temps, j'ai essayé de m'approprier mes propres engagements. Alors à 14 ans, je voulais rentrer... À 14 ans, je voulais rentrer chez Attac. Mes parents m'ont dit « Tu vas un peu fort, là !» Attends 18 ans, attends de voir. Et puis finalement, cette période un peu révolutionnaire est partie. et au fur et à mesure du temps, des rencontres. J'aime beaucoup rencontrer les gens, c'est sans doute ma plus grande passion. Au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de rejoindre les causes qu'ils défendaient. Et ça a toujours trouvé du sens et écho finalement à ma vie perso. Je crois que la vie c'est un chemin et que finalement à un moment donné tout se rejoint, tout se relie, rien n'arrive par hasard.
Mais,
et ça a été le constat de nombreux engagements que j'ai.
Et alors le vrai enjeu c'est justement comment tu arrives à aligner du coup vie perso, tes valeurs, tes engagements personnels et ta vie professionnelle, c'est-à-dire que tu arrives à avoir une vie professionnelle qui est totalement alignée avec ta vie perso.
Alors avec beaucoup de culpabilité souvent, mais j'essaye avec l'âge d'apprendre la douceur, d'apprendre à ne pas être parfaite, ce qui a été chez moi le grand leitmotiv. Sois parfaite, fais plaisir. Je crois que j'ai vraiment été élevée.
Oui, donc du coup, dire oui à des choses peut-être qui ne te ressemblent pas, mais parce oui. qu'on considère que ce serait ta place, ou en tout cas qu'il faut que tu dises oui à ça.
C'est ça. Ouais. Si ma maman, elle entend ce podcast, je vais quand même préciser. Ce n'est pas forcément les valeurs dans lesquelles on m'a élevée, mais c'est celles, en tous les cas, que j'ai cru devoir défendre. Parce que je crois qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on imagine que les autres attendent de nous et ce que les autres attendent réellement de nous. Ouais. Et moi, en tous les cas, j'avais envie d'être parfaite, j'étais première de la classe toute ma vie j'ai toujours plutôt répondu aux sollicitations que j'avais en me disant ça c'est une opportunité que tu peux pas louper quoi. Sauf qu'avec le temps, aujourd'hui je le vis plus du tout comme ça, j'ai plus peur du regard des autres, ce qui a été longtemps ma faiblesse sans doute. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir faire ce qui me plaît. Alors, comment est-ce qu'on concilie, parce que c'était quand même ça, hein, la base de la question, comment on concilie vie pro et vie perso en prenant le temps, en fait, en déculpabilisant. Vraiment, je crois que c'est ce qui aura été chez moi au cours des dernières années le plus marquant. Le télétravail m'a énormément aidée aussi dans cette gestion. Alors, pas que je fasse du télétravail, mais le fait que mes collaborateurs en fassent. C'est-à-dire leur permettre de le mettre en œuvre, de ne pas être tous les jours au bureau, m'a déculpabilisé, moi, d'aller à des réunions à l'extérieur en permanence. Et ça a été assez important dans ma capacité à passer du temps avec mes enfants. Puis aujourd'hui, j'arrête de compter aussi le volume d'heures que je réalise. Ce qui compte vraiment, c'est les missions que je mène, c'est les projets que j'impulse, c'est la dynamique que je suis capable de créer et le sens que je suis capable de donner à l'entreprise. Et finalement, le décompter en heures ou en présentéisme, oui, c'est même pas ce que j'attends de mes collaborateurs.
Plutôt la qualité d'implication, c'est-à-dire que parfois en une heure de temps, tu peux beaucoup plus t'impliquer, beaucoup plus réaliser de choses que si tu es trois heures présente.
Exactement. Et ça, je me suis rendu compte que fut une époque, j'étais très présente au bureau, mais finalement qu'en termes de qualité, c'était pas top quoi. Et aujourd'hui j'essaie d'être beaucoup plus focus sur ce que j'ai à faire, j'ai beaucoup de to-do list et puis les enfants grandissent, les enfants nous sollicitent de plus en plus et aujourd'hui j'ai envie de répondre à ces sollicitations parce que la vie passe vite et parce qu'ils font partie de mon équilibre de manière très forte. J'ai un amour pour les enfants d'une manière générale. Je suis persuadée que le monde changera grâce à eux. Ils sont précurseurs sur plein de domaines.
Ce qui te met une pression de dingue sur justement l'éducation des adultes de demain. Mais non, mais c'est sûr.
Enfin... Non, mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus de difficultés à ne pas segmenter tout. Il y a quelques années, je segmentais ma vie pro, je segmentais ma vie perso. Aujourd'hui, j'ai du mal à vivre ce cloisonnement. J'ai plus envie de vivre ce cloisonnement. Il m'arrive d'emmener les enfants au bureau. Il m'arrive même de sortir avec les enfants dans des cocktails. Alors, rarement business, mais en tout cas, des cocktails qui ont du sens, avec des valeurs. J'ai plus envie de choisir. Et si j'estime que ça peut apporter aussi quelque chose à mes enfants, alors je le fais. Mais il m'aura fallu attendre d'avoir la légitimité pour le faire et la capacité à surmonter le regard des autres et l'avis des autres dans ma démarche.
Ah, mais justement, du coup, est-ce que c'est pas tes enfants grandissants qui donnent aussi cette légitimité-là? Parce que je te comprends beaucoup quand tu dis, voilà, d'être toujours la bonne élève, la fille qui veut être parfaite, etc. J'ai beaucoup aussi vécu là-dessus. Et alors qu'effectivement, mes parents me l'exigeaient pas forcément, mais en tout cas, toi, tu as l'impression que c'est ça qu'il faut que tu donnes. Et puis derrière, tu as des enfants. Moi, c'est pareil, on a des enfants à peu près du même âge qui grandissent, etc. Et moi, je me rends compte ce que je veux d'eux, c'est-à-dire que moi, je leur exige pas d'être les meilleurs à l'école, ni rien. Moi, je veux qu'ils soient bien, heureux dans leur basket, etc. Et du coup, je me dis, mais si eux, je leur exige pas ça et je les aime pour ce qu'ils sont et parce qu'ils se réalisent, est-ce que moi aussi, je peux m'accorder d'être simplement moi et d'aimer ce que je fais? Donc, je pense aussi que tu es un peu déculpabilisé quand tu vois tes enfants grandir et que tu vois ce que tu attends d'eux, où tu dis, en fait, je m'exige peut-être trop de choses sur.
Je crois qu'on se ressemble vraiment. En tout cas, ce que tu décris, c'est exactement ce que je vis avec mes enfants. Aujourd'hui, ce culte de la performance, d'être le premier, mais alors pas du tout. S'ils sont premiers et que ça les réalise, c'est super. Mais si ça ne les réalise pas et qu'ils sont heureux d'aller à l'école, c'est exactement ce que j'attends et ce que j'ai envie de mettre en œuvre pour eux. Mais c'est potentiellement super frustrant. La semaine dernière, Arthur, un de mes fils, finit premier au cross de son école, troisième avec le collège. Et il est en CM2. Et donc, le soir, il m'appelle très fier de lui. Et je l'ai bien sûr félicité. Mais en fait, je n'ai pas trop voulu en faire parce que c'est chouette qu'il soit premier au cross. Mais je l'aurais tout autant aimé s'il avait été dixième. Et le défaut que peuvent avoir ces enfants qui recherchent la performance et que parfois je vois chez Arthur, c'est que s'il n'est pas premier, il va abandonner.
Ah, mais tout à fait. Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'il abandonne. J'ai envie qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il fait. Et donc, j'essaie de l'élever dans un autre culte que celui de la performance, dans le culte du plaisir, dans le culte de respect des valeurs.
Puis de l'effort, peut-être aussi pour y
arriver. De l'effort. Et en fait, je m'attelle vraiment à être exemplaire quand même pour eux. C'est-à-dire que quand je prends des décisions, les décisions importantes de ma vie, celles qui me touchent profondément, je me demande souvent, je me pose deux questions. La première, c'est à 85 ans, quel regard t'auras sur la décision que tu viens de prendre? Ça me donne un premier élément de réponse. Et puis le deuxième, c'est, et si ta fille était dans la même situation que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, ma fille, parce que je m'assume.
Mais non, mais c'est logique.
Voilà. Ouais.
Et notamment sur des choix personnels, d'ailleurs, parce qu'on exige beaucoup aux filles, justement, sur les choix liés à la famille, à la carrière, etc. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que si tu veux être ambitieuse, avoir des rêves, etc., souvent, on est beaucoup plus exigeante sur les filles. Donc, tu as raison de te dire qu'est-ce que je conseillerais à ma fille? Parce que je crois que c'est essentiel sur l'éducation. Qu'est-ce que tu vas transmettre à ta fille? Quel modèle de mère et de femme tu lui transmets, quoi.
Et régulièrement, enfin, parce que j'ai des discussions avec elle, elle a beau avoir 6 ans, on échange beaucoup avec Jeanne, et si demain sa vocation c'est d'être à la maison, d'élever les enfants, de tout donner pour ça parce que c'est sa fibre à elle, bah c'est ok aussi, quoi.
Bah bien sûr.
Peu importe, en fait, l'important c'est qu'elle mette de l'amour dans ce qu'elle fait, et ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur et ce avec quoi j'essaye de l'armer au mieux.
Et qu'elle soit à sa place, c'est-à-dire qu'elle ait l'impression dans sa vie d'être à la place où elle doit être, quoi.
Exactement.
Et il n'y a rien de pire que de se dire « je ne suis pas à ma place ».
C'est ça. Comme les garçons, aujourd'hui, j'essaie régulièrement de leur faire parler de leurs émotions. Et je les amène régulièrement à les interroger sur la notion de bonheur, parce que un petit garçon, ça pleure pas, quoi. Et ils le disent, ils ont 10 ans, ils sont déjà mis dans ce moule-là. Le petit garçon ne doit pas pleurer. Donc régulièrement, j'essaie de savoir comment s'est passée leur journée, mais aussi de les titiller sur ce domaine-là, parce que je pense que c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'un problème dans le monde qu'on aurait pu résoudre si on s'était laissé aller à davantage d'émotions et surtout à oser dire à l'autre ce qu'on ressent.
Ce qui nous a blessés.
Ouais. Et c'est vrai que quand on a la capacité à comprendre que les émotions de l'autre le regardent, le concernent et qu'on n'y est pour rien, finalement, on fait un grand pas dans la compréhension de l'autre. Et j'essaye, en tous les cas, avec les enfants, de les amener à regarder leurs émotions pour savoir ce que ça dit d'eux.
Mais du coup, c'est une relation super forte avec tes enfants et je pense que c'est une vraie force pour eux. Parce que quand on grandit et qu'on est aimé et qu'on sait qu'on a quelqu'un qui est là pour nous, quelles que soient nos émotions, dans les faiblesses comme dans les forces qu'on peut avoir, ça veut dire que pour eux, c'est gagné. C'est-à-dire que quoi qu'il leur arrive dans la vie, ils sauront que t'es là. Et que donc, enfin, moi, pour moi, c'est la base, quoi. Donc même s'ils foirent le cross, C'est pas grave.
Exactement. Il aurait pu.
Et moi, mon fils, il a été 33e au cross.
Ah, c'est
bien. Alors, tu vois, bah ouais, mais il serait dévasté que je dise ça parce qu'il n'était pas content du tout.
C'est pas la même école.
Parce que son super pote, il était 2e et donc il n'était pas content. Donc là, il serait très triste que je dise ça. Maman, tu vas pas dire ça sur le podcast que t'enregistres. Mais c'est pas forcément facile, du coup, quand tu te mets la pression comme ça, d'élever des enfants et d'être un modèle pour tes enfants, de femmes qui à la fois travaillent, à la fois est là pour eux, à la fois pensent justement aux cadeaux des copains, aux fêtes d'anniversaire, aux déguisements qu'il faut, et en même temps à l'engagement associatif, et en même temps à la performance qu'on te demande au travail, et d'être sur tous les fronts. Et à un moment, tu te dis, bah là, j'ai juste besoin d'une heure et j'ai envie de lire parce que j'en peux plus.
C'est ça. Et puis, il y a une maxime que j'ai appris assez récemment, mais qui fait vraiment du bien, c'est de se dire qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Et de l'inculquer aussi dans les relations qu'on peut avoir, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, familiales. Il arrive que un environnement, une relation devienne toxique parce que à un instant T, il y a des éléments qui font qu'elle ne peut pas être autrement. À partir du moment où on pose l'idée que chacun fait du mieux qu'il peut, on donne déjà sa part de pardon. Et moi, je sais qu'avec mes enfants, je leur explique que je ne suis pas parfaite, que parfois, j'ai une réaction. Même moi, quand je me regarde, je me dis « qu'est-ce que tu fais quoi ? Pourquoi tu cries comme ça ?» Et en fait, bah oui, à ce moment-là, c'est la réaction que j'avais envie d'avoir et elle n'est pas optimum. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et à aucun moment, j'ai voulu te blesser. Et à aucun moment, cette réaction-là, elle a pour but de t'atteindre. C'est la mienne, elle m'appartient. Et c'est aussi une phrase, moi, que j'ai trouvée assez magique. Parce que quand on part de ce constat-là, on arrive à rentrer avec beaucoup plus de douceur dans la relation à l'autre. Et peut-être à arrêter d'essayer de comprendre l'autre, mais juste à l'accueillir comme il est.
Mais ça veut dire en plus que ça fait une relation très authentique et je trouve que c'est beau aussi parce que si la mère est infaillible ou en tout cas tu montres pas du tout tes failles aux enfants puis tu leur dis pas là bah peut-être que maman elle était fatiguée, peut-être qu'elle s'est trompée là-dedans et peut-être que maman elle a tort quand elle fait ce choix-là et que finalement elle va changer d'avis parce que le fait de dire ça aussi ça prend la tolérance à l'enfant et lui-même du coup il est aussi avec les autres parce que comme sa mère qui forcément il adore et qu'il idolâtre etc. elle est aussi faillible mais ça veut dire que t'es hyper tolérant vis-à-vis des autres, de tes copains, de tes profs, de tous les gens que tu rencontres, donc c'est une vraie force.
C'est une ouverture d'esprit en tous les cas que j'essaie de leur donner.
Mais ça veut dire que tes enfants, ils sont élevés aussi dans une famille engagée,
voilà.
Comme tu as été élevée toi. Peut-être pas les mêmes engagements,
non, pas les mêmes engagements.
Engagés, c'est vachement
engagés
important.
À être eux, et je leur souhaite de réussir à trouver ça. Le chemin est long pour réussir à savoir qui l'on est, ce qu'on veut vraiment.
Et ça peut changer aussi.
Exactement.
Ça peut changer parce qu'on peut être une personne à 10 ans, comme Arthur. On peut être une personne à 20 ans, faire des choix. Puis une personne à 30 et une personne à 40. On a le droit d'avoir plusieurs vies aussi. Et de changer d'idée, de changer de vie. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Parce que là, on est en train justement, nous... sur juillet de vouloir changer alors de vie professionnelle et puis changer de vie aussi quotidienne parce que quelque part un changement de vie professionnelle quand tu crées ton entreprise c'est un investissement aussi personnel qui peut changer plein de choses et c'est pas toujours compris dans le sens où je comprends pas tu vas avoir 40 ans, t'as un super poste, un bon salaire, t'as un CDI dans une grosse entreprise qui est, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à prendre le risque de créer ta boîte etc. Mais en fait maintenant j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir un métier qui me ressemble, j'ai envie de créer mon truc. Et donc, je le fais, quoi. Je prends le risque, c'est pas grave, parce que maintenant, c'est ça ma vie. Et il faut aussi l'expliquer que parfois, tu peux changer.
Et puis, risquer, c'est oser vivre.
C'est ça.
Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de mourir dans la vie.
C'est ça. Et justement, à 85 ans, est-ce que si tu te dis « Ah, je suis content, j'ai jamais pris de risque, je suis restée dans la même vie toute ma vie, j'ai pas changé d'entreprise, j'ai pas changé d'amis, j'ai rien changé, c'était bien. Ah bah, j'ai une vie directement reliée à la mort et je peux mourir tranquille. Ok. Est-ce que tu regretteras pas ça ?» Et te dire « Au contraire, à 85 ans, j'ai risqué, j'ai fait 1000 choses, j'ai créé 1000 activités, je me suis engagée dans plein d'associations, j'ai rencontré des gens différents, j'ai appris, je me suis trompée, je me suis relevée. » Voilà.
C'est exactement ça. Moi, dans ma vie, il y a eu un moment particulier qui a été déclencheur aussi de toute une réflexion sur moi-même. Quand j'ai donné la vie pour la première fois à mes jumeaux, j'avais 25 ans, j'ai fait une énorme hémorragie. Mon cœur s'est arrêté et il a fallu me faire des piqûres d'adrénaline pour qu'ils repartent. Et en fait, j'ai clairement vu Je me suis vue mourir, c'est-à-dire que j'ai vu... Je suis partie très loin. J'ai l'impression de m'être vue en dehors de moi-même. Enfin, j'ai vu la lumière, le tunnel. Et ça a été très, très dur de revenir à la vie. J'ai eu un sentiment de sérénité, de plénitude, comme je n'avais jamais réussi à avoir de toute ma vie. Et j'ai fait le choix de revenir, et le choix a été douloureux. Vraiment, je n'avais pas envie de revenir tellement j'étais bien. J'ai fait le choix de revenir parce que j'avais deux petits loulous que je n'avais pas rencontrés et que j'avais vraiment envie de voir. Mais le souvenir que j'en ai, c'est un traumatisme d'être revenue. Vraiment, c'était tellement bien. Et en fait, je crois que j'ai plus peur de mourir. Et à 30 ans...
Du coup, ça libère. De fou, quoi.
Ça m'a énormément libérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la capacité à oser être moi. J'ai la capacité à vivre beaucoup plus dans l'amour que dans la peur. Parce que je crois toujours que demain, ce sera mieux qu'hier, quoi. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv, quoi. Si on n'imagine pas ou on n'a pas la capacité d'imaginer que ce qui va arriver sera mieux que ce qui existe, alors on ne fait rien.
Ouais, forcément, t'es bloqué et tu te dis oh, c'était mieux avant. Donc surtout, tu recules et ouais, tu fais rien, c'est clair.
Et tu n'avances pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui motive mes actions, ce qui motive, ce qui me donne envie de me lever, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que la vie me réserve aujourd'hui comme truc sympa ? Bah, c'est bête, mais tout à l'heure, je revenais de mon déjeuner dans une petite ruelle de Blois. Je lève la tête, je vois ce ciel bleu et je me dis, mais quelle chance d'être en vie ! Et ça, c'est aussi, je trouve, une des capacités qui change tout. C'est la capacité à s'émouvoir des tout petits détails et à se rendre compte de la beauté des tout petits détails. Parce que en effet, si on recherche la passion amoureuse, la folie, il y a une grande chance d'être déçu, on ne la croise pas à tous les coins de rue. Mais par contre, une discussion avec une amie chère, moi j'ai eu 1h30, une de mes très grandes copines au téléphone hier, pendant 1h30 on a philosophé, c'était... un moment idéal, enfin merveilleux, bah, c'est une chance de vivre ça. Et il faut avoir la capacité, dans la simplicité des choses, à s'émerveiller encore de tout ce qui peut nous entourer. Et alors bon, Saint Augustin, c'est une chose qu'il y a cette célèbre citation. Voilà, il faut continuer à désirer ce que l'on possède. Je suis pas tout à fait dans ce registre-là parce que je crois que sans forcément aller chercher plus, l'objectif de la vie, c'est
oui,
de se révolutionner un petit peu en permanence, de se questionner, de se comprendre.
Et c'est de ne pas se contenter dans le sens où de se remettre en question pour aller plus loin. Quoi.
C'est ça.
Mais après, c'est chouette parce qu'à la fois, tu es sur l'émerveillement du détail ou effectivement de peut-être une odeur, peut-être voilà, une image, un ciel, etc. Et à la fois... de prendre des décisions qui peuvent être totalement bouleversantes sur la vie et qui sont peut-être que certaines personnes ne prennent jamais parce que justement à trop imaginer les conséquences qui vont peut-être jamais arriver ou à trop avoir peur tu bouges pas et finalement toi tu vas te concentrer sur des petits détails et quand même prendre des décisions qui peuvent tout bouleverser. C'est assez drôle, quoi.
Ouais. Enfin... Et je crois vraiment que c'est d'autant plus le petit détail qui me nourrit, mais surtout que ce que je ressens à l'intérieur de mon corps. Et il m'aura fallu des années pour réussir à le faire. Écouter ce que me dit, enfin, mon ressenti. Je suis très, très cartésienne. Pour moi, tout se passe dans la tête. Je théorise tout ce que j'entends. J'ai plutôt une compétence, une connaissance philosophique ou économique, par exemple. En économie, j'ai pas mal de références d'auteurs, donc je vais aller chercher la théorie qui va bien quand il y a un truc qui va arriver. Et en fait, mon cerveau, il est tout le temps en action. Sauf que, à force d'être en action, il est capable de te faire croire des choses et de t'illusionner. À un moment donné, c'est vachement important, en tous les cas pour moi, de me recentrer sur ce que je ressens. Et je suis comme tout le monde, hein, j'ai un ego. Parfois, j'ai envie de faire un truc, j'ai un élan vital de faire un truc, de commander ce livre et puis de l'offrir. Puis je me dis, oh bah non quand même, parce que si je fais ça, il va penser que, elle va penser que, et je m'arrête. Et là, je m'observe toute seule, je me dis, mais cette pensée, elle est bête. T'es en train de réfléchir à la place de l'autre, t'es en train de... C'était quoi ton sentiment à toi ? Bah moi, c'était la passion d'aller offrir ça. Bah vas-y, fais-le. Fais-le, parce que ça va te nourrir. Et en effet, ça me nourrit.
Et puis ça t'apprend, parce que la réaction de l'autre par rapport à ton cadeau va aussi t'apprendre, enfin toi, sur cette relation.
C'est ça. Et donc, voilà, ça fait partie aujourd'hui des choses que j'essaie de mettre en œuvre aussi, c'est qu'est-ce que je ressens quand je vais chez Thelma, donc le fonds de dotation dont je suis membre du bureau sur le handicap, et qu'il y a une maman qui vient me voir, qui m'explique que son fils est autiste, qu'on a financé un stage de plongée, et que son fils, en remontant de cette fameuse plongée, c'est la première fois où elle l'a vu se redresser, se tenir debout, droit et fier. Je crois que j'ai pleuré. Quand elle
c'est sûr.
Voilà, quand elle m'a raconté ça. Et en fait...
Mais parce que c'est l'autre, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est la rencontre. Et là, ça veut dire que tu es au bon endroit, au bon moment, tu as un lien avec les gens qui sont à côté de toi et qui vivent à côté de toi, et tu as finalement une vraie influence, ou en tout cas, comment, tu existes, c'est la preuve que tu existes parce que tu as participé à ça et tu as existé sur le chemin de la personne à côté. Et en fait, c'est un sens de la vie incroyable. Quoi.
Exactement. La notion de sens, on la recherche tous. Et à travers les engagements qu'on peut avoir, je crois qu'on met du sens en tous les cas. Et même l'entreprise, je ne crois pas qu'on peut la concevoir autrement. J'ai assisté à un rendez-vous il n'y a pas très longtemps où on disait que la donnée économique, c'était une contrainte et non pas une obligation de l'entreprise. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était l'obligation de l'entreprise. On est une entreprise, elle ne peut fonctionner que si on gagne de l'argent. Ça, c'est entendu
avec tout le monde. Avec des tableaux Excel et tout, des prévisionnels et tout ça.
Et aujourd'hui, et ce fameux rendez-vous, on m'explique qu'en fait, c'est la contrainte. Que l'entreprise, c'est un lieu de vie dont la contrainte est de gagner de l'argent. Et en fait, c'est sans doute la définition de l'entreprise qui, en tout cas, moi, me va le mieux. C'est-à-dire qu'avant de gagner de l'argent au sein de l'entreprise, même si c'est nécessaire pour pouvoir faire vivre mes collaborateurs, j'ai envie d'en faire un lieu de vie, un lieu où on échange, aussi bien sur le pro que sur le perso. Quand on parle de séparation vie privée, vie publique, enfin, il y a des gens, ils sont peut-être capables de laisser dans le vestiaire leurs problèmes domestiques.
Ça,
j'en ai jamais été capable, donc j'ai pas envie de l'imposer à mes collaborateurs. Ils savent que je suis là, qu'ils peuvent ouvrir la porte du bureau. Quand ils partent, en règle générale, je leur demande toujours, il y a un truc dans votre vie qui se passe en ce moment, parce qu'il y a... Il y a souvent un lien aussi entre
parce que ça t'influence forcément
et le reste. Et j'ai pas envie de segmenter, j'ai envie de prendre l'individu dans l'intégralité.
Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que moi j'ai tellement... tu vois, c'est ces discussions qu'on a eues souvent... où il y a des gens qui segmentent, qui classent. Par exemple, tu as un tiroir pour le pro, un tiroir pour le perso, un tiroir pour la famille, un tiroir pour les amis, etc. Et moi, j'ai tout le temps dit, mais moi, mon problème, c'est que j'ai un seul grand tiroir et tout est en bordel dedans. Et donc, ben moi, quand il se passe un truc dans ma famille ou quelque chose qui arrive à une amie chère, eh ben, je suis peut-être moins attentive au travail, ou en tout cas, je vais prendre du temps pour lui téléphoner entre midi et deux, et du coup, je vais peut-être revenir à 14h au boulot un peu plus triste parce que j'ai dû l'accompagner. Et je vois pas comment tu peux segmenter ça, comment ton cerveau il est capable de dire « Ok, il m'arrive des trucs, je reviens au boulot, ça n'influence pas du tout. » Mais si, forcément. Et à la fois, justement, c'est beau, parce que quand t'es hyper bien dans ton boulot, dans ta vie personnelle, etc., et ben, t'es plus productive et t'as plus d'idées et t'es plus créative et t'as plus envie de donner. Donc, mais t'as raison, le travail, c'est vraiment un lieu de vie.
Et puis l'énergie, c'est pour eux. Aujourd'hui, l'énergie... ça va beaucoup plaire à Cédric et à notre discussion d'il y a 15 jours. aujourd'hui, on est un corps composé d'atomes. Les atomes, il est physiquement entendu qu'ils sont composés d'électricité, du plus ou du moins, et qu'aujourd'hui, on est donc rempli d'énergie. Tu n'as pas la capacité à arrêter ton énergie parce que tu arrives au boulot. C'est comme ça, tu en es composé, quoi. Moi, je sais que le matin, quand je me lève, quand je suis dans ma bagnole, je mets la musique, je vais au boulot en chantant et en dansant. Que la journée soit belle, que je sois triste du matin, parce que ça m'énergise, parce que ça remet un petit peu de dynamisme dans ma journée, parce que ça me redonne du positif. Et voilà, je suis la fille d'Amblois qui est au volant de sa bagnole en train de danser dans tous les sens, mais peu importe, c'est un moment que je prends pour pouvoir me permettre de commencer la journée du bon pied, quoi.
Mais ouais, mais du coup, t'as tout à fait raison, parce que moi, je trouve que c'est vraiment ça, le travail, et on le vit comme ça sur Juillet, c'est-à-dire que nous, quand on a créé l'entreprise en plein milieu de la crise sanitaire, tout le monde nous a dit, mais il faut surtout pas faire ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas faire d'événements, donc faut pas le faire du tout, votre prévisionnel, il va pas être tenable, c'est pas possible, pourquoi vous créez un podcast, ça va vous coûter, ça va rien vous rapporter, etc. Mais en fait, on y croyait, nous, à notre marque, et on avait envie de faire ça, et on avait envie de rencontrer les gens, et on avait envie de parler de ce qui nous portait et de ce qu'on avait comme vision, Bah donc on l'a fait quand même. Alors ouais, il y avait pas de tableau Excel, il y avait pas de. Mais en fait, on est content parce qu'on a créé un truc qui existe vraiment. Et aujourd'hui, bah c'est plus facile pour nous. On est plus libre évidemment de faire des événements, mais entre temps, on n'a pas été découragé par justement oui, la contrainte de gagner de l'argent absolument, où tu te dis bah ton activité, ça veut dire que c'est que ça. Ça veut dire que si c'est pas profitable dans le temps immédiat, tu le fais pas. Mais du coup, t'avances pas.
Il y a pas beaucoup de boîtes qui se montrent si on parlait exactement. De rentabilité immédiate.
Les chefs d'entreprise, c'est des grands rêveurs, des grands optimistes, parce que sinon ils créent rien.
Hein. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est l'incarnation des valeurs que l'on met dans notre entreprise, qui est une source de succès. Aujourd'hui, quand on va démarcher un client, pourquoi il bosse avec nous ? Mais parce qu'il y a une cohérence très forte entre le produit qu'on vend et le discours que l'on a et la personne que l'on est. Et c'est vraiment cet alignement entre les différents pans d'une proposition commerciale qui va faire que le client, dans le monde du service en tout cas qui est le nôtre, va vers vous ou n'y va pas. On peut parler du prix, on peut parler de... Mais c'est finalement souvent pas la donnée principale. Un prix, ça justifie le prix d'une prestation. On peut vendre deux voitures et ne pas l'acheter du tout le même prix. Un prix de prestation, ça se justifie et c'est même pas la teneur de mon propos. La teneur de mon propos, c'est vraiment de dire que les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui ont une vraie raison d'être et qui ont la capacité à véhiculer les valeurs une volonté de la part des clients aussi de s'approprier de ces valeurs, une identification qu'elle fait aux valeurs portées par l'entreprise.
Et finalement, tu peux pas avoir tous les clients, en tout cas tu peux pas plaire à tout le monde, mais les clients que tu vas avoir, c'est ceux qui vont se sentir portés, incarnés par les valeurs que tu as, et tant mieux, parce qu'au moins, quelque part, tu as des collaborateurs avec qui tu partages les mêmes valeurs, des clients avec qui tu partages les mêmes valeurs, et comme ça, tu es aligné.
Et ça s'appelle des partenariats, et c'est merveilleux.
Tout à fait. Mais n'empêche que ça, c'est un peu, alors après, c'est des grands termes, parce qu'on parle du monde d'avant, du monde d'après, etc., mais c'est quand même un peu ce qui a changé, et on parlait tout à l'heure en aparté de la difficulté qu'on peut avoir des fois à s'extraire de l'éducation qu'on a eue ou en tout cas des modèles de société, de la norme qu'on peut nous imposer, qu'on s'impose à nous-mêmes, etc. Mais tu as aussi, nous, je pense qu'on fait partie de cette génération où on n'est plus dans la même entreprise toute notre vie, où le schéma, c'est pas de dire on rentre à 20 ans dans une grosse entreprise, on monte les échelons, etc., et puis on fait notre pot de départ en retraite dans la même entreprise, et ça, c'est la réussite. C'est pas ça aujourd'hui. On a des vies multiples avec plein d'engagements, etc., et donc on change. Et autant, je pense que la génération qui vient après nous, ça sera de l'acquis pour eux. Ils vont avoir des vies multiples, et la vie personnelle, elle a vraiment une importance aujourd'hui aussi. Et nous, on est un peu dans cette espèce de transition où on est en train de dire est-ce que j'ose le faire parce que qu'est-ce que va penser la famille ? Et à la fois, mais si, je vais le faire parce que justement, je ne vais pas regretter plus tard. Donc, tu vois, en fait, on essuie les plâtres, je crois. Et encore plus les filles, je vais faire un petit peu ma féminisme, encore plus les mères. Parce que comment ça, t'es pas avec tes enfants le mercredi après-midi ? Qu'est-ce que tu fais, Florine ?
Ouais, ouais, ben on a, je pense, toi comme moi, eu des petites discussions avec nos mamans à un moment donné qui sont parfois difficiles à avoir sur le fait de ne pas avoir envie d'être que mère. Et en réalité... encore une fois, c'est vraiment la projection de qu'est-ce que ma fille, plus tard, j'aimerais pour elle. C'est pas grave de pas être que mère, c'est pas grave à un instant T, par exemple, de pas prendre du plaisir à jouer à la poupée. Ça m'est déjà arrivé de pas avoir plaisir à jouer à la poupée parce que j'avais autre chose dans la tête. Mais à partir du moment où on est capable de l'expliquer, en tous les cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, et de dire, bah, par contre, ok, là, je peux pas, mais je me rends disponible à tel moment. Et je le serai. Et là, je fais tout pour l'être.
Et de
ne
pas faire semblant, d'être sincère dans ton investissement.
Exactement, dans tout ce que je fais. À un moment donné, maman, elle a fait sa journée de boulot. Hier ou avant-hier, j'ai commencé à 7h, j'ai fini à 20h. Il fallait faire un truc. Je lui ai dit non, je ne suis pas capable. Là. À 21h, j'étais au lit, je dormais.
Et puis, je vais mal le faire. C'est-à-dire, si tu le fais, de toute façon, tu vas être pas patiente. Et en fin de compte, ça va mal se passer.
Et ça n'a pas de sens pour personne.
C'est ça.
Donc, être vraiment impliqué dans tout ce qu'on fait, jusque dans notre envie de passer du temps avec eux. Et je me force aujourd'hui à essayer de mettre le portable de côté le week-end à la maison. J'ai arrêté WhatsApp parce que on a des notifications dans tous les sens avec tous les groupes qu'on a et que si j'ai envie, je passe ma journée sur WhatsApp. Je pose le téléphone le week-end et le WhatsApp, il attend le lundi matin et les groupes d'élection à la CCI, de trucs, ça attend un peu, quoi. Et c'est pas très grave.
Ça passera après.
Ça passera après.
Et du coup, oui, là, donc le week-end, tu déconnectes un petit peu le téléphone et oui. ça te laisse peut-être du coup le temps de lire parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup lire, que tu lisais 4 livres en même temps.
Par
et ça,
période.
Et ça, je suis impressionnée parce que moi, je suis monolivre. C'est-à-dire que moi, quand je commence un livre, je suis sur ce livre et je ne peux pas en lire plein en même temps. Et donc, mais j'aime beaucoup lire aussi. Est-ce que tu aurais en tête comme ça un livre vraiment qui t'a marqué ou en tout cas un livre qui est pour toi référence, que tu adores et que tu conseillerais?
Oui, j'ai un livre que j'adore, que je conseille et que j'ai offert à 10 personnes, les 10 personnes les plus importantes de ma vie, quand je l'ai lu.
Ah, tu veux dire le même livre,
ouais.
Tu l'as acheté 10 fois.
Ouais, je l'ai okay. acheté 10 fois et je l'ai offert.
Ah, c'est une bonne
et,
idée.
Et ce livre, ça s'appelle « Le pouvoir de l'instant présent » d'Eckhart Tolle. C'est un livre que j'ai lu suite à une formation sur la loi de l'attraction. Pareil, pour la grande cartésienne que j'étais... que je suis toujours d'ailleurs, c'était une formation un peu déconcertante. L'idée de la loi de l'attraction, c'est très clairement tout ce que tu imagines, tout ce que tu projettes mentalement, eh bien tu finis par l'obtenir. Il est prouvé scientifiquement qu'à partir du moment où tu fermes les yeux et que tu imagines quelque chose, il se passe exactement la même chose dans ton corps que si tu le faisais vraiment. Et donc, tu te mets en condition pour recevoir de l'univers. C'est le mais moment oui. où on me prend pour une folle.
Non, mais je suis d'accord
avec ce que
tu dis.
Tu te mets en condition pour recevoir ce que tu demandes. Et tout ça, c'est
le
possible.
Plus attire le plus, quoi.
Exactement. Et tout ça, ce n'est possible que si tu es capable de rester dans l'instant présent. Si tu es capable d'enlever toutes les peurs, si tu es capable de vivre l'instant comme il est. Et en fait, cette loi de l'attraction, si on reprend la Bible, il y a beaucoup de passages déjà qui en parlent. Et ça a été une révolution en tous les cas, de me rendre compte à quel point on pouvait attirer le succès en ayant juste un schéma de pensée différent.
Une posture, en fait.
Une posture. Ouais. Et, ah, j'aime pas le mot posture.
C'est vrai.
Ah, j'ai un gros problème
c'est
avec
vrai.
Le mot posture.
Ah, bah, oui. Tu vois, moi, j'aime bien parce que... Je vais te dire pourquoi. Parce que, justement, en tant que... je vais faire mon truc, mais en tant que fille, que femme, souvent, je trouve qu'on a tendance à se mettre en retrait ou en tout cas à s'excuser parfois. Et du coup, on est souvent des grands discours féministes de dire « Ah, il faut une proportionnelle où tu vois il faut qu'il y ait des femmes représentées parce que sinon elles n'accèdent pas etc. » et je pense qu'elles n'accèdent pas aussi parce qu'elles se mettent pas en situation de dire mais je suis légitime je suis voilà et donc mais alors pourquoi t'aimes pas le mot
je te rejoins tout à fait en fait et encore j'ai des amis qui ne pensent absolument pas comme moi mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui une femme qui veut peut. Et en effet, ça nécessite, mais comme un homme qui le veut, certains sacrifices,
ah bah bien sûr.
Certaines mises en avant, il faut oser, enfin
voilà.
Il y a plein d'éléments et de prérogatives pour pouvoir réussir. J'aime pas le mot posture parce que pour moi, c'est mettre un masque. Pour moi, être en posture,
ah,
c'est être en
dire.
Représentation. Et ça, aujourd'hui, j'ai plus envie. J'ai plus envie de côtoyer des gens qui sont en posture.
Je sais pas ce que tu veux dire.
J'ai plus envie de travailler avec des gens qui sont en posture. Assumons qui on est et tout va bien se passer, quoi.
Alors
et
là, t'as du travail.
C'est pour ça que ce mot posture, en fait, j'ai vraiment beaucoup
dire, ouais.
de mal avec.
Ouais.
Et donc, mon livre préféré, on était
ouais,
là-dessus.
Ouais.
Donc c'est
non,
vrai.
C'était de dire, ouais, effectivement, qu'à partir du moment où tu as en tête que tout va bien se passer, que ton projet, il va se réaliser, du coup, ça se passe, ton
c'est
projet
ça.
Se réalise.
Et puis, en fait, généralement, on se fait beaucoup de mal juste avec nos pensées, pas avec ce qui se passe vraiment. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et en réalité, on se rend compte que ce qui nous déglingue le plus le cerveau, ce qui nous fait ruminer, ce sont des faits que nous avons imaginés et qui n'existent pas. Quand on imagine un scénario, il y a 6% de probabilité que ce scénario se
ouais.
réalise.
Et souvent, on imagine le pire, en
et
plus.
Et on imagine toujours le pire. Et
on ne va pas y arriver parce qu'il va se passer 1000 choses, parce que les gens ne vont pas accepter, parce que... ouais.
Exactement. Et finalement, on s'auto-censure, on s'auto-sabote. Et on a cette capacité qui est très humaine de se trouver 1001 prétextes de ne pas y aller. En restant dans l'instant présent,
en restant avec les données qu'on a.
Oui, sans projeter des conséquences
pharaoniques. Exactement, rien ne va pas mourir en fait.
Ouais,
tant qu'on n'est pas mort, tout va bien. Ouais.
Rien n'est irrémédiable.
Et si en plus, on a l'intelligence d'y placer un soupçon d'amour dans ce qu'on fait, il y a toutes les chances pour que ça fonctionne. Et l'amour, c'est un terme qui est galvaudé parce qu'on le réserve souvent à son intimité très profonde. Moi, aujourd'hui, je crois que l'amour, on peut le retrouver partout, quoi. Il n'y a rien, par exemple, qui me... Enfin, quand je traverse la rue, que je fais un sourire, j'étais très malheureuse pendant l'époque des masques, parce que j'adore sourire.
Ah, tu m'étonnes.
Et croiser quelqu'un sur le passage piéton, lui faire un sourire et retrouver ce sourire en face, bah, moi, j'ai réussi ma journée, quoi.
Ben ouais.
Et
non mais t'as raison, l'amour c'est pas forcément l'amour comme on entend le grand amour, etc. C'est l'amour avec tes amis, c'est l'amour de tes enfants, c'est l'amour de ton travail, une passion pour un bouquin, non mais c'est sûr.
C'est la conscience de la chance qu'on a d'être là, voilà, c'est un peu ça l'amour pour moi.
Mais ouais, l'amour de la vie en fait.
L'amour de la vie.
Et du coup, Florine, c'est parfait pour conclure ce podcast. On aime bien demander à nos invités Juillet comment ils imaginent leur demain. Et du coup, avec tous les engagements que tu as, les projets, etc., tes enfants qui grandissent, comment imagines-tu dans ton demain ?
Eh bien, ce n'est pas la question du tout la plus simple.
Ça, c'est clair.
Déjà parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas très envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de laisser le droit à la vie de me surprendre. Et ça fait vraiment partie des choses que j'aime.
Mais ça veut dire que tu te positionnes vers un demain qui va te surprendre. Ça veut dire que tu es ouverte finalement à des choses que tu n'as pas prévues, ou en tout cas que tu n'imagines pas encore, mais qui vont se produire et que tu es ouverte à ça.
C'est exactement ça. Je suis très ouverte à ce que la vie peut m'offrir, m'apporter. Je crois, de toute façon, et j'en suis même persuadée, que demain sera toujours mieux qu'hier. J'ai vraiment cette pensée-là en tête en permanence. Je sais que j'ai plein de joies avec lesquelles je vais me nourrir de mes enfants. J'ai envie d'un demain simple, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Aujourd'hui, j'ai plus envie pratiquement de me dépouiller. C'est un peu bizarre comme terme, je ne sais pas, mais de revenir à l'essentiel en tous les cas. Ça fait vraiment partie de mes ambitions, revenir... essentiel. Bah, c'est pas super vendeur hein, pour une fille qui est entrepreneur.
Ben non, mais pas du tout. Ben, au contraire. Au contraire, parce que je pense que c'est une vraie entreprise de revenir à l'essentiel. Et ça veut dire aussi, par rapport à ce que tu nous disais avant, l'essentiel pour toi, ça veut dire que des rencontres aussi.
C'est sans doute ce qui me nourrira le plus. J'ai envie de continuer les engagements que j'aime. Je pense que je ne ferai pas toute ma vie ce métier parce que j'ai... aussi un peu une capacité à m'ennuyer dans le quotidien et l'envie toujours d'apprendre des choses nouvelles. Aujourd'hui, j'aime mon métier, mais j'imagine faire autre chose parce que la vie est longue. Et puis profiter.
Et puis quand on a créé une entreprise à 24
pleinement.
Ans, autant te dire que du coup, tu as plein de choses à faire derrière.
C'est ça.
Mais c'est sûr.
C'est ça. Et puis, j'ai la possibilité aujourd'hui de rouvrir de nouvelles structures, de... comme on a fait, hein, et en fait, pas tant que ça. C'est plus aujourd'hui mon leitmotiv. Donc, je sais qu'un jour, il faudra que je trouve sans doute une autre activité, une autre passion. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Je sais comment réagissent certaines personnes à des projets dont je peux parler. Il y a plein de sujets qui, à mon avis, méritent d'être dépoussiérés sur le plan de l'entrepreneuriat. Je suis en train d'imaginer potentiellement d'autres choses.
C'est chouette, donc plein de surprises.
Voilà.
Super. Ben merci Florine.
Merci Charlotte.
On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez Juillet.